Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le moment est venu de se changer les idées sur Europe 1 en compagnie de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, nous mettons le cap sur la Russie.
Eh oui, la Russie qui a fait d'Alexandre Pouchkine le tsar des poètes. Mais avant d'être statufié dans la pose du fondateur de la littérature russe, Pouchkine a connu une existence remuante. Il était joueur, buveur, bagarreur et grand amoureux devant l'éternel. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure en compagnie d'un de ses biographes.
Et avant cela, vous souhaitiez nous parler de son grand-père.
Précisément de son arrière-grand-père, Abraham Hannibal, un esclave noir venu du Cameroun et dont Pierre le Grand avait fait son serviteur, puis son conseiller. Le destin de l'aïeul noir de Pouchkine, c'est un des plus fascinants que je connaisse, vous allez voir ça.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Alexandre Pouchkine avait un peu de sang africain et c'est à sa mère qu'il le devait. Elle était en effet la petite fille d'un noir nommé Abraham, un esclave originaire non d'Éthiopie comme on l'a cru longtemps, mais de l'extrême nord du Cameroun actuel. Cet esclave avait été offert au tsar Pierre le Grand, qui l'a franchi et en fit son filleul, pour ne pas dire même son favori. Abraham Petrovitch allait devenir, après la mort de Pierre, le général en chef du corps des ingénieurs de l'armée, une sorte de Vauban russe, l'un des plus importants personnages de l'État. Incroyable destinée qui donc se prolonge en quelque sorte dans cet arrière-petit-fils écrivain prodige. Du reste, Pouchkine a été marqué toute sa vie par ce statut de sang-mêlé qui était le sien. Un statut qui pouvait se lire sur son visage du reste. Ses camarades au collège l'appelaient le singe. Et à George Doe, qui plus tard, en 1828, prétendra le représenter sur la route de Saint-Pétersbourg à Kronstadt, il lance « Pourquoi ton crayon magique peint-il mon profil nègre ?» Mais en vérité, Pouchkine s'honorait de ce métissage qui, pour lui, a sans doute été un moteur. Il s'intéressait beaucoup à son arrière-grand-père, au point d'interroger longuement son grand-oncle à son sujet et de lui consacrer, en 1827, un roman, le premier roman historique russe, malheureusement inachevé, « Le Nègre de Pierre le Grand ». Eh bien, c'est ce roman vrai qu'il est aujourd'hui possible de reconstituer grâce au travail mené il y a une quinzaine d'années par l'historien béninois Dieudonné Nyamankou.
Un extrait du premier concerto pour violon signé Tchaïkovski sur Europe 1, puisque le récit de Franck Ferrand s'intéresse au parcours des Pouchkine aujourd'hui.
Le 21 juillet 1704, à Istanbul, on disait alors à Constantinople, le riche marchand russe Raguzinski adresse la lettre suivante au comte Golovin, qui est le chef de la chancellerie à Moscou. « La présente lettre sera remise à votre excellence par un serviteur que j'enverrai avec trois jeunes nègres. Deux d'entre eux sont destinés à votre excellence et le troisième à votre ambassadeur. J'ai eu beaucoup de mal à les acheter. Je prie Dieu qu'ils arrivent sains et saufs. J'espère qu'ils vous conviendront car ils sont très beaux. » En fait, une autre lettre datée cette fois de la fin de l'été et signée de l'ambassadeur nous apprend que les trois enfants esclaves ont été envoyés à Moscou. Deux serviteurs de confiance de l'ambassade ont été chargés de les convoyer depuis Constantinople à travers la Bulgarie, la Valachie, la Moldavie et l'Ukraine. Donc un long, très long, pénible voyage de 10 semaines, un voyage qui n'était évidemment pas le premier pour ces petits esclaves.
Le cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous sommes toujours en Russie sur Europe 1, précisément au cœur de l'histoire du romancier et dramaturge Pouchkine et de son aïeul noir.
Les trois petits noirs dont je vous parle sont originaires de l'Afrique occidentale. Pour deux d'entre eux, dont celui qui nous intéresse, il est certain qu'ils sont nés vers 1696 à Logone. Logone, c'est une belle ville fortifiée sur les bords du fleuve qui porte le même nom, le fleuve Logone, qui est long d'un millier de kilomètres. On est là aux confins du Tchad et du Cameroun actuel. Il est probable, en tout cas, c'est ce que notre futur héros affirmera plus tard, il est probable qu'ils étaient les fils du prince local. En 1703, lors d'une attaque parmi d'autres, ces jeunes princes laganais ont été capturés par des hommes de main du sultan Abdelkader de Baghirmi. C'est un chef musulman qui, comme beaucoup d'autres, faisait un commerce effréné d'esclaves avec les Ottomans. C'est ainsi que les enfants sont donc capturés, vendus à des marchands d'esclaves qui les emmènent à Constantinople. Ils ont donc alors 7 ou 8 ans. L'année suivante, nous venons de le voir, avec un autre petit noir, ils sont vendus à un marchand russe qui en fait don à son ambassadeur. Aussitôt, ils sont donc envoyés en Russie. Autant dire, en ce début de XVIIIe siècle, qu'ils sont envoyés sur une autre planète. Et d'autant plus que les trois jeunes esclaves, accompagnés par deux serviteurs russes, font leur entrée à Moscou sous une tempête de neige le 14 novembre 1704. Ce jour-là, le tsar est absent du Kremlin, il est occupé à une nouvelle campagne contre les Suédois. Pierre le Grand ne tarde cependant pas à regagner ses pénates. Il rentre à Moscou le 19 décembre et s'installe pour l'hiver chez le chancelier Golovin, où il trouve donc deux des trois petits esclaves noirs, deux frères, pour autant qu'on le sache, Abdoul et Abraham. Il faut vous dire que ce dernier a été baptisé pendant son voyage, d'où ce prénom biblique, Abraham. Le tsar Pierre, évidemment, est très content. Ce qu'il faut que je vous avoue, en effet, c'est que tout dans cette histoire, depuis le début, la transaction, le voyage, l'installation à Moscou de ses petits serviteurs nègres, tout a été voulu et ordonné par lui. Le tsar poursuit une idée bien précise. Il entend faire éduquer ses enfants afin de prouver à la Russie que tous les êtres humains, d'où qu'ils viennent, sont doués, pour peu qu'on les enseigne, des mêmes capacités intellectuelles. C'est, si vous voulez, la preuve par l'absurde qu'il veut administrer aux boyards, une preuve qui entend démontrer que tout le monde peut étudier les disciplines, notamment scientifiques, venues d'Occident. Tout le monde, y compris les Russes, bien sûr. Pierre se dit que si l'on parvient à enseigner les mathématiques à de petits Africains, eh bien les Russes n'auront plus aucune excuse pour refuser de s'y mettre à leur tour. Tout de suite, la sollicitude impériale se porte surtout sur le jeune Abraham, dont le regard vif et le visage avenant ont tout de suite plu à Pierre. Les archives nous apprennent que le 18 février 1705, 15 roubles, ce qui est une somme rondelette, sont pris sur la cassette du tsar pour faire tailler une tunique convenable au nègre Abraham. Voilà la citation. En quelques semaines, Abraham devient assez proche de son nouveau maître. On le voit veiller à son chevet lors d'une fièvre contractée par le tsar au mois d'avril suivant. Du reste, une fois que Pierre est rétabli, il se fait portraiturer en compagnie du jeune nègre par le graveur hollandais Schönebeck. Il est précisé que l'enfant est âgé de 9 ans. Dès l'été 1705, Abraham accompagne son protecteur à la guerre, à Polotsk et Vilna. Le 13 juillet, il est d'ailleurs baptisé dans la confession orthodoxe. Il devient Piotr Petrovitch Petrov, seulement il continuera à se faire appeler Abraham. Il semble qu'il n'ait pas voulu perdre ce prénom qui lui rappelait probablement, c'est en tout cas ce que nous dit Dieudonné Nyamankou, il lui rappelait son premier prénom africain qui devait être Broua. Pendant 12 années, de 1705 à 1717, Abraham va vivre au rythme de Pierre le Grand. Il le suit partout comme son ombre. Une fois alphabétisé, il va devenir secrétaire de nuit, c'est-à-dire la personne chargée de noter les idées, les pensées du tsar quand il se réveille la nuit entre deux sommes. Il faut vous dire que, comme Napoléon plus tard, Pierre a le sommeil léger et qu'il ne cesse jamais de réfléchir, de planifier, d'organiser les choses. Le jeune serviteur noir, désormais inséparable de Pierre, a 13 ans lorsqu'il participe à la célèbre bataille de Poltava. C'est la grande victoire russe sur les Suédois. Cela fait alors un an qu'il sert officiellement dans l'armée en tant que tambour. Il a connu très vite son baptême du feu et tôt, il semble que la guerre l'ait à la fois effrayé, bien entendu, vous imaginez, c'est un enfant, mais aussi passionné. Du reste, plus tard, il va devenir un grand théoricien militaire. À 18 ans, Alors qu'il est en train de rentrer vers Saint-Pétersbourg avec le tsar, Abraham est pris dans une espèce de violente tempête. Ils sont en bateau. C'est un naufrage. Le tsar et son serviteur en réchappent de peu. Et Abraham va être tellement marqué par cet événement que désormais il refusera à tout jamais de remonter sur un bateau.
Extrait sur Europe 1 de l'enlèvement au Sérail signé Mozart. Vous restez avec nous, on marque une courte pause. On retrouve Franck Ferrand pour le récit au cœur de l'histoire consacré aujourd'hui, vous l'avez compris, à la Russie et plus précisément au dramaturge Pouchkine.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire d'Alexandre Pouchkine, le romancier russe au sang mêlé, Franck.
Alors Abraham Petrovitch, le serviteur noir de Pierre le Grand, a 21 ans quand il est envoyé en France pour y suivre des études militaires. La vie à Paris coûte cher évidemment et la pension que lui octroie le tsar est très maigre, ce qui fait que le pauvre va un peu crever de faim. Il envoie lettre sur lettre à Moscou pour essayer d'obtenir un peu d'argent, sauf qu'on est en pleine crise dynastique à l'époque. C'est le moment de la trahison du tsarevitch et le tsar Pierre a vraiment d'autres préoccupations, ce qui fait que les lettres d'Abraham reste sans réponse et que l'étudiant va devoir survivre comme il peut. À 23 ans, il voudrait s'engager dans l'armée française. On est en pleine régence, hein, on est peu après la mort de Louis XIV. Seulement le duc du Maine, qui était chargé de veiller sur lui et de le soutenir, ce duc du Maine, vous savez, cet enfant légitimé de Louis XIV, est tombé en disgrâce. Il ne peut donc pas appuyer sa candidature. La seule solution pour Abraham, c'est de s'engager comme élève ingénieur et ça va déterminer tout le reste de sa vie. On voit Abraham, avec le peu qu'il a, payer des professeurs pour lui enseigner de quoi passer le recrutement d'ingénieur militaire et il va pouvoir comme ça participer à la guerre contre l'Espagne. Il est blessé, vite promu ingénieur lieutenant. Ses mérites de guerre lui permettent de solliciter une admission à l'école militaire théoriquement interdite aux étrangers. Et le voilà donc à l'affaire. L'affaire qui, à l'époque, au début du règne de Louis XV, est le véritable creuset des grands soldats. Par manque de moyens, les élèves sont logés chez l'habitant. Et bien, c'est ainsi qu'Abraham passe les deux saisons de 1720 à 1722. Il connaît à la fois, il apprend ainsi, bien entendu, la théorie militaire, l'art des fortifications, etc. Et en même temps, il voit vivre les Français, puisqu'il vit vraiment chez l'habitant. Début 1722, les étudiants russes sont rappelés chez eux. Seulement, Abraham n'a pas fini ses études. Et par ailleurs, il est prévu que les étudiants rentrent en bateau. Alors ça, il ne veut même pas en entendre parler. Pour lui, c'est hors de question. Il adresse plusieurs lettres au tsar et finit par obtenir gain de cause. Le tsar va même l'aider à ne pas trop souffrir de la pauvreté pendant sa dernière année de formation. Et c'est donc en 1723 seulement qu'Abraham rentre en Russie, muni de son brevet d'ingénieur du roi et du grade de capitaine de l'armée française. On est à une époque où Pierre Ier est très fatigué. Il ne lui reste que 2 ans à vivre. Il devient colérique, un peu dangereux même. On voit les exécutions se multiplier autour de lui. Abraham n'en est pas moins accueilli avec chaleur. Il redevient secrétaire personnel de l'empereur, chargé de la bibliothèque, de la salle de projet et de croquis. Il travaille sur des chantiers en tant qu'ingénieur consultant. On peut dire qu'à ce moment-là, Abraham jouit de la confiance totale de Pierre, dont il est devenu une sorte de conseiller. Il a ramené de Paris l'une des plus prestigieuses bibliothèques privées de l'Empire russe. Il y a là toutes sortes d'ouvrages de sciences militaires, d'architecture, d'histoire, de géographie, de littérature, etc. Et Abraham devient donc une sorte de personne qui compte dans la fin du règne de Pierre le Grand. Il est devenu lieutenant bombardier, il supervise les travaux de la nouvelle forteresse de Riga, et c'est là, à Riga, qu'il apprend en janvier 1725 la mort de Pierre le Grand à 53 ans. Pierre n'a pas eu le temps de désigner son successeur à la tête de l'État. C'est sa veuve Catherine qui est nommée impératrice de Russie. Et sous son règne, le prince Menchikov devient tout-puissant. Il se fait nommer généralissime de l'Empire et on peut dire que pour Abraham, le temps des angoisses est venu. Catherine n'en reste pas moins bienveillante à son égard. Il faut dire que certains témoins affirment que Pierre, sur son lit de mort, aurait demandé qu'on veille particulièrement sur la sécurité et l'avenir de son filleul noir. La nouvelle impératrice charge Abraham d'enseigner les mathématiques à l'héritier du trône, le grand-duc Pierre Alexeïevitch. C'est une nomination très remarquable et qui nous montre, au passage, qu'Abraham, à ce moment-là, est devenu un bon, voire même un grand mathématicien, peut-être le meilleur mathématicien de la Russie. Le 23 novembre 1726, à l'âge de 30 ans, voilà donc notre... il est né en 96, ça fait exactement 30 ans. Voilà Abraham chez l'impératrice. Il lui remet en effet le manuscrit d'un livre en deux volumes dont il vient d'achever la rédaction. C'est un imposant ouvrage de 700 pages. Le tome 1 s'appelle « Géométrie pratique » et le tome 2 « Fortification ». Il s'agit des tout premiers ouvrages de ce genre en Russie. Seulement voilà, malheureusement pour Abraham, le 6 mai 1727, l'impératrice Catherine meurt. C'est une époque difficile qui commence. Abraham est outré par les excès de Menchikov. Il finit d'ailleurs par se mêler un peu de politique. Il milite contre le tyran au sein d'un cercle qui s'appelle le Cercle des Amis de la Princesse Volkonskaya. Tous ces gens-là vont bien sûr être poursuivis de la vindicte du nouveau chef de l'État, ou en tout cas chef du gouvernement. Menchikov ne peut néanmoins pas accuser Abraham de crime quelconque. Il cherche, on fait une enquête très approfondie, mais objectivement, cet homme-là mène une vie très droite, très pure. De plus, il jouit de la vive sympathie du jeune empereur, Pierre II, dont il a été le précepteur. Et le Premier ministre n'a pas d'autre choix que de l'envoyer dans une sorte d'exil officieux. Il l'envoie le plus loin possible, effectuer un certain nombre de missions extérieures. Et finalement, le 8 septembre 1727, Menchikov tombe en disgrâce. Il est déchu de ses rangs et titres et l'on peut penser qu'à ce moment-là, ça va être pour Hannibal le début. Je dis Hannibal parce que c'est son nouveau nom. Il se fait appeler désormais Abraham Hannibal. On peut penser que pour Abraham Hannibal, c'est le début d'une rentrée en grâce. Et bien malheureusement, les choses seront beaucoup plus longues, beaucoup plus compliquées et il faudra qu'il attende encore plusieurs années avant de reprendre le rang qui était le sien auprès du tsar Pierre Ier. C'est à la mort de Pierre II que notre exilé peut enfin rentrer à Saint-Pétersbourg. Il fait à ce moment-là la connaissance d'une jeune femme qu'il épouse. Elle s'appelle Eudoxie. Il l'épouse le 17 janvier 1731 et aussitôt ou presque aussitôt, ils partent ensemble pour l'Estonie. Très vite, Abraham Hannibal va néanmoins comprendre que sa femme n'est pas fidèle. Elle entretient une relation extra-conjugale avec un de ses propres élèves. Et en septembre 1731, Eudoxie accouche d'une petite fille toute blanche. Abraham comprend que le bébé a été conçu avant leur arrivée. Il choisit de garder l'enfant, il le prénomme Eudoxie comme sa mère et il accepte, c'est assez incroyable à dire, mais il accepte cette situation avec une certaine philosophie. Il n'empêche, les rapports avec sa femme vont se dégrader. Et en février 32, on l'informe que quelqu'un chercherait à l'empoisonner. Une enquête est menée, Eudoxie et son amant sont arrêtés, ils passent aux aveux. Là, Abraham pourrait les faire condamner à mort. Mais il préfère pardonner. Vous voyez la grandeur d'âme de ce personnage. Plus tard, heureusement pour lui, il rencontrera Christine Régine, la fille d'un capitaine suédois passé à la Russie, et il s'installera avec elle sur des terres qu'il a nouvellement acquises. Le 5 juin 1735, elle mettra au monde un fils qui, cette fois, est bien de lui et qui se prénommera Ivan. Il faut attendre novembre 1741 pour que Abraham Hannibal rentre réellement en grâce. À ce moment-là, Elisabeth Petrovna, la fille de Pierre Ier, prend le pouvoir. C'est une très bonne nouvelle, évidemment, pour Abraham. « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand viendra ton règne ?» écrit-il à la nouvelle impératrice. La réponse ne tarde pas et le 12 janvier 1742, il est promu général-major de cette armée russe. Il devient donc un grand personnage, un haut dignitaire dans la hiérarchie militaire. En 1942, Hannibal est carrément anobli. Un second fils lui naît, qui est prénommé Pierre, en souvenir de Pierre Ier évidemment. Puis un troisième en 1944 qui s'appellera Ossip. En 1745, il part pour la Finlande en mission diplomatique. Et en 1746, le Sénat lui offre le domaine de Mikhailovskoye. C'est une sorte de consécration pour lui. Il va, dans les années qui suivent, diriger de nombreux travaux de fortification, de création portuaire. Il devient, si vous voulez, une sorte de Vauban russe. Du reste, il passe beaucoup de temps à améliorer, comme le faisait Vauban en France, le sort des pauvres gens. Il est considéré comme un grand humaniste. Il propose l'aménagement d'un hôpital pour les ouvriers. Il propose la première université russe qui va être fondée à Moscou. Et le jour de Noël, il est promu général-lieutenant, ce qui le place au troisième rang de la hiérarchie civile et militaire. Autrement dit, au sommet de l'élite de l'Empire, il est aussi nommé gouverneur de la province de Viborg à la frontière finlandaise. Vous avouerez que pour un petit esclave venu du Tchad, c'est pas mal du tout. En 1762, Abraham Petrovitch Hannibal se retire dans le domaine de Mikhailovskoye, donc dans la province de Pskov. C'est donc le domaine que lui avait donné l'impératrice Élisabeth. Il y mourra bien plus tard encore, le 20 avril 1781, à l'âge de 85 ans, plus d'un demi-siècle après la mort du tsar Pierre. Et au siècle suivant, le prince Dolgoroukov devait écrire dans ses mémoires « Abraham Hannibal avait immensément d'esprit, une prodigieuse facilité pour l'étude, une rare capacité pour les mathématiques et les diverses branches des connaissances humaines. Il était également doué d'un caractère noble et élevé et d'une incorruptible probité. » En mourant, nous dit Dieudonné Nyamankou, il laissait à ses enfants une fortune immense qui sera partagée entre ses différents enfants, parce qu'il a eu des filles aussi en plus de ses trois fils. Le général Ivan Hannibal, son fils aîné, n'a pas eu d'enfant. Il finira par adopter la fille de son frère Ossip, Nadine, une belle et noble jeune femme au teint métissé. C'est elle qui épousera, par amour, le beau lieutenant-capitaine Serge Pouchkine. Le jeune couple aura deux enfants, Olga, née en 1797, et puis, deux ans plus tard, un certain Alexandre, qui va devenir un poète incroyable, le plus grand poète de Russie, sans aucun doute, le père de la littérature russe. Eh bien, c'est à l'arrière-petit-fils d'Abraham, Alexandre Pouchkine, que nous allons maintenant consacrer la seconde partie de cette émission, et nous allons le faire en compagnie de sa biographe, Corinne Pouillot.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Pour violon de Tchaïkovski sur Europe 1 et Andrew Franck avec son invité.
Pouchkine, roman d'un séducteur, c'est l'ouvrage que publie aux éditions du Rocher chez Vladimir Fedorovski Corinne Pouillot. Merci Corinne Pouillot d'être des nôtres. On ignore généralement, enfin quand je dis on ignore, on ne s'attarde pas en tout cas sur cette ascendance un peu particulière de Pouchkine qui portait lui-même sur le visage les traits de son arrière-grand-père.
Oui, il lui ressemblait. Il lui ressemblait beaucoup et il était très fier de cette ascendance.
Il a d'ailleurs essayé de se renseigner. Il est allé auprès de son grand-oncle pour essayer d'en savoir le plus possible. Et il a écrit en 1827, ce qui est incroyable, le premier roman historique russe, qui est l'histoire même de ce grand-père. Et malheureusement, roman inachevé.
Oui, il ne l'a pas terminé. Il a écrit le Nègre de Pierre le Grand. Et effectivement, il a passé beaucoup de temps auprès de son grand-oncle. Et le grand-oncle en question croyait lui en apprendre question de beuverie, mais Alexandre Pouchkine était déjà bien bien avancé dans ce domaine-là.
Est-ce que le fait que Pouchkine ait conservé des traits métis, parce qu'on était à la troisième génération, mais néanmoins il avait encore les cheveux crépus, le visage très marqué, très basané, est-ce que le fait d'avoir eu ce visage de métis dans la Russie du tout début du 19e siècle a été pour lui une sorte de handicap? Est-ce qu'il a eu quelque chose à surmonter de ce point de vue?
Eh bien, je ne crois pas. Apparemment, ça a ajouté à son charme, ça et ses extraordinaires yeux bleus.
Même si lui se trouvait très laid, il le répète à longueur de temps. En fait.
Il se trouvait très laid, effectivement, sur un certain nombre de portraits, il n'est pas très beau, mais on est toujours frappé par son regard. Il n'était pas très grand non plus, mais très sportif.
Et pourtant, quel séducteur! On va y venir dans un instant. Il n'avait qu'à regarder les jeunes femmes pour que toutes tombent en pamoison, c'est assez extraordinaire. Alors, si vous avez écrit ce livre, vous, c'est pour essayer de faire comprendre aux Français à quel point le personnage est une immense figure de la littérature et même, on peut dire, de la culture russe. Il est vraiment le père de la littérature russe, Pouchkine.
Oui, effectivement, il est considéré comme le père fondateur de la littérature russe. Et j'ai toujours été frappée par le fait qu'il soit très très connu en Russie et beaucoup moins en Europe et notamment en France.
Je me rappelle, lors d'un tournage pour la télévision il y a quelques années, nous avions de grandes difficultés à Saint-Pétersbourg pour des raisons tout à fait matérielles et l'équipe était un peu sur les nerfs et nous avions, vous savez, ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire une personne qui accompagne les équipes de télévision dans ces cas-là, qui sert un peu de guide, de traductrice, etc. Elle était tout à fait charmante et adorable, cette dame, et elle était, comme beaucoup de Russes, très, très, j'allais dire fanatique en tout cas, amoureuse de Pouchkine. Et alors, à chaque fois qu'elle sentait la tension monter un peu trop dans la voiture de télévision, elle disait « Pour vous détendre, quelques verres de Pouchkine ».
Ah mais oui, mais les Russes ont Pouchkine au cœur. Hein, et c'est vraiment le monument national. Et si vous faites une visite de l'appartement de Pouchkine, quai de la Moïka, ce qui est absolument superbe, vous risquez malgré tout, étant français, de terminer cette visite, un grand silence, et on vous dit « Mais c'est quand même un Français qui a tué Pouchkine ».
Alors, on a un peu statufié le personnage, notamment à l'époque soviétique, on en a fait une sorte de modèle absolu. Et il faut dire quand même que lorsqu'on creuse un peu, qu'on entre dans sa biographie, la vie que mène Alexandre Pouchkine est pour le moins agitée.
Sa vie est un roman en elle-même, c'est plus qu'agité.
On a vu que la vie de l'arrière-grand-père était un roman incroyable, mais celle de l'arrière-petit-fils est pas mal non plus. D'ailleurs, c'est ce qui fait la matière même de votre livre.
Il a eu beaucoup d'ennuis, il s'est mis aussi dans beaucoup d'ennuis. Il avait quand même un caractère très vif, très emporté, très susceptible. Et très tôt, il a écrit des épigrammes, très tôt, il a fâché le pouvoir. Et ça lui a apporté bon nombre d'ennuis quand même.
Oui, il était d'un naturel assez batailleur, il faut le dire.
Hein. Oh, dès le début, dès le lycée, il avait des duels, des querelles, des bagarres, enfin tout.
Et c'est un révolté, on peut le dire?
C'est un révolté, oui. Actuellement, on dirait que c'était un as de la provocation.
Est-ce qu'on peut dire que ça a été un révolutionnaire sur un plan politique?
Je pense pas vraiment. Disons qu'il était révolté contre l'injustice, contre l'exagération, notamment de certains propriétaires terriens. Mais vraiment un révolutionnaire, je ne crois pas. Et cependant, il a presque appartenu au cercle des décembristes.
Oui, c'est ça. Alors, quand vous dites presque, ça sera un des grands regrets de sa vie. Il ne fait pas partie du mouvement décembriste, de cette grande révolution à l'époque du tsar Nicolas Ier.
Non, effectivement, il n'en fait pas partie. Dès le lycée, il a contact avec les jeunes hussards qui reviennent des campagnes de Napoléon et qui sont contaminés, si on peut dire, par les idéaux
impériales et révolutionnaires françaises, disons-le.
Ensuite, il appartient à une société qui s'appelle la Lampe Verte, qui donnera les décembristes, et il les fréquente de très près, mais jamais il n'a été inclus dans les cercles de décembristes. Alors, on dit qu'il y a ça deux raisons. C'est que d'une part, ses amis craignaient non pas qu'il ne soit pas fidèle, parce qu'il était d'une grande fidélité en amitié.
Oui, en amitié, on va voir ce qu'il en est des amours dans un instant.
Il craignait qu'il ne puisse pas s'empêcher d'en faire des épigrammes ou des poèmes. Ça, c'est un aspect des choses. Et d'autre part, je crois que bon nombre de ses amis qui avaient conscience de son génie n'ont pas voulu que le plus grand poète russe risque la mort ou la déportation, ce qui est arrivé aux principaux chefs de la conjuration.
Oui, la répression a été
terrible. 5 ont été pendus et une centaine ont été envoyés en Sibérie. Et je crois vraiment que ses amis les plus proches, et notamment il avait des amis de lycée qui participaient à ce mouvement-là, n'ont pas voulu. Mais il en a été très, très mortifié.
Le tempérament du personnage est extrêmement bouillant. Du reste, il va finir par en mourir, et en mourir très jeune. On connaît évidemment les circonstances de la mort de Pouchkine. Il est mort de jalousie, on peut dire, au cours du fameux duel.
Oui, il est mort au terme d'une histoire vraiment très longue et très, très tourmentée et très triste pour lui. Il est mort en 1837, tué par Edmond Dantès. Et au cours d'un duel, d'ailleurs, qu'il avait presque déjà raconté dans Eugène Onéguine. C'est poignant, parce que les choses se sont pratiquement déroulées de la manière dont il l'avait déjà raconté.
Il y a quelque chose de très romantique, évidemment, à ce sang dans la neige, au duel de Pouchkine.
Il y a quelque chose de très byronien, de très triste aussi, parce que la fin de la vie de Pouchkine est poignante.
Nous allons revenir dans un instant sur les amours très tourmentés du grand Alexandre Pouchkine.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Corinne Pouillot publie aux éditions du Rocher Pouchkine, roman d'un séducteur. Ce sous-titre dit à peu près tout. Et au-delà même du sous-titre, le tableau, le portrait de Pouchkine que vous avez, Corinne Pouillot, choisi pour la couverture, où l'on voit un Pouchkine très exalté, très débraillé aussi. Il a la chemise très ouverte, on dirait un peu Bernard-Henri Lévy, comme ça.
Et mais oui, mais il n'est pas là, il n'est pas en phase de séduction. Il travaillait ainsi. Il est dans l'inspiration. Il travaillait sur son lit, en chemise, avec des montagnes de papier, de petits bouts de crayon, parce qu'il travaillait avec des tout petits bouts de crayon tout rongés. Et donc, j'ai choisi parce que ça me semblait refléter à la fois l'écrivain, mais aussi l'amoureux.
Alors, l'amoureux, on y vient dans un instant. L'écrivain, si l'on ne devait lire que 2 ou 3 œuvres de Pouchkine, lesquelles faudrait-il retenir ?
Alors, j'ai une grande, grande faiblesse pour La fille du capitaine. Gogol disait qu'on n'avait jamais rien écrit de plus beau, que c'était le roman des romans. Et c'est, si vous voulez avoir un reflet de la vie russe au XVIIIe siècle, c'est quasiment parfait. C'est d'une pureté de langue, même en traduction. Et tout est beau, la psychologie, le choix des personnages. On dit que si Pouchkine n'avait pas écrit La fille du capitaine, Guerre et paix n'aurait pas été ce qu'est Guerre et paix. Ouais. Et que Tolstoï lui doit beaucoup. Et effectivement, vous retrouvez la même thématique, le même pendant entre la vie publique et la vie privée.
De Tourguenieff à Tchekhov, même jusqu'à Nabokov, tous les grands auteurs russes ont une sorte de religion, de vénération pour Pouchkine. Pour ce qui est de ses personnages, certains, de Boris Godounov à Eugène Onéguine, ont servi de modèle également, enfin de base à des opéras russes très, très connus. C'est toute la culture russe finalement qui naît, qui cristallise dans cette œuvre pouchkinienne. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques vers ? Est-ce que vous pourriez citer quelques vers du poète ?
Bien sûr. Alors Pouchkine a écrit d'innombrables poésies, notamment sur la liberté, sur des tas de thèmes qui lui étaient chers, mais il a écrit beaucoup de poèmes d'amour. Et il n'est pas un Russe qui ne connaisse ce poème à Anna Kern, qui fut une de ses grandes passions.
Alors, Corinne Pouillot, ce fameux poème.
« Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение.
C'est tellement beau à entendre comme ça, mais on ne sait pas ce que ça veut dire.
Alors, quand
en français, on est comme... Je ne parle pas russe.
En français, ça vous donne quelque chose comme « Je songe à l'heure ravissante où dans ma vie tu as passé », comme une vision fuyante et comme un ange de beauté. Il a été vraiment très, très amoureux de cette femme, Anna Kern. Il l'a rencontrée durant son exil à Mikhaïlovskoïe. Et on peut dire que ça a illuminé ses jours pendant cette période.
Il a été un amoureux précoce. Dès 15 ans, il mène déjà une vie assez trépidante sur ce plan.
Oh oui, même avant, dès le lycée, il était déjà amoureux. Il était amoureux de tout le monde, des sœurs de ses camarades, des amis. Et il a commencé très très tôt avec les hussards qu'on tenait à Tsarskoye Selo. Il a commencé très très tôt à fréquenter les actrices, voire les prostituées.
Il avait une vie finalement assez dissolue, en tout cas très libre. On est dans une époque de très grande liberté dans ces milieux aristocratiques russes.
Oui, sa vie ne diffère pas vraiment beaucoup de celle des autres
oui.
nobles. Simplement, il savait rien faire avec mesure.
Oui.
Donc, dès qu'il faisait quelque chose, il le faisait en grand.
Il va très loin. Quelles sont les grandes conquêtes de Pouchkine, ses plus grandes amoureuses, si je puis dire?
Eh bien, il a follement aimé cette Anna Kern. Il a terriblement aimé sa femme, pour son grand malheur. Et autrement, vous savez, c'est très difficile de démêler, parce qu'il les aimait comme un fou, mais il pouvait les aimer que quelques jours ou quelques semaines. Bon, pendant sa période à Odessa, il a été quand même très amoureux d'Elisabeth Vorontsov, la femme, malheureusement la femme du gouverneur d'Odessa, ce qui lui a valu pas mal de problèmes. Il a eu également une histoire qui est assez peu connue avec une certaine Karolina Sobanska, qu'il aurait pu épouser. Il l'a revue juste avant de se lier avec Natalia Goncharov, mais ça ne s'est pas fait. Pour la petite histoire, c'était la sœur d'une certaine Evanska, ce qui fait que Pouchkine aurait pu être le beau-frère
de Balzac. Oui. Nous avons parlé justement des amours de Balzac et de Madame Anska au printemps dernier. Ses amis disaient de lui qu'il était amoureux de l'amour. C'est ça qu'il aimait, c'était cette situation-là, c'était le fait d'être amoureux.
Oui, c'est le grand frisson que ça donne, la quête, la poursuite. Et c'était comme une folie.
Ça a beaucoup inspiré, ça transparaît littéralement dans ses œuvres.
Il y a d'innombrables poèmes qui parlent d'amour. Certains tout petits, certains très longs. Ou même dans Eugène Onéguine, la fameuse lettre de Tatiana, il se met à la place d'une jeune fille et il vous raconte tous les émois d'une jeune fille.
Il peut aller jusqu'à la littérature érotique, du reste, ce qu'on ne dit pas assez.
On n'en parle pas beaucoup, mais effectivement, il y a aussi cette fameuse Gabrielle Iade qui lui a valu tellement de soucis et qui est, certains critiques considèrent que c'est l'une de ses plus belles œuvres.
Corinne Pouillot, je rappelle que vous êtes l'auteur de Pouchkine, roman d'un séducteur, c'est aux éditions du Rocher. Quand vous dites séducteur, c'est à tous les sens du mot, ça n'est pas seulement le séducteur au sens amoureux, c'est le séducteur au sens littéraire également. Il avait cette étincelle très particulière. Henri Gourdin publie aux éditions de Paris une autre biographie, Alexandre Sergueïevitch Pouchkine également. Et puis, je me suis plus qu'inspiré, vous avez bien compris, dans la première partie de cette émission, de l'ouvrage de Dieudonné Niamankou, Abraham Hannibal, l'aïeul noir de Pouchkine. Ça a été édité chez Présence Africaine. On ne trouve plus ce livre, Corinne Pouillot.
Mais je le cherche depuis un certain temps, j'espère arriver à le trouver.
Écoutez, j'ai eu tellement de mal moi-même à me le procurer que je ne peux même pas vous proposer de l'offrir. Ce serait faire preuve d'une générosité presque excessive. Je voudrais remercier particulièrement Odile Caffin-Carcy qui m'a donné l'idée de cette émission et de ce double parcours. Et puis remercier bien sûr Lorena, Elodie et Quentin qui m'ont aidé à la préparer. Vous aurez donc eu aujourd'hui deux biographies en une émission. C'est pour les jours où je n'ai pas le temps d'aller au bout de la première.